Le bulletin du handicap. Bonjour à vous tous, mon nom est Kevin Breton et voici les manchettes en ce lundi 4 janvier 2016, journée mondiale du braille. Naviguer dans le noir, difficile d'accès à l'Internet pour les personnes aveugles. Une nouvelle application pour les établissements accessibles à Toronto. En France, simplification des normes d'accessibilité pour le logement et un tournoi de hockeyeurs pour les personnes avec une déficience. De trop nombreux sites web sont encore peu accessibles aux 304 400 Québécois, dont 77 995 Montréalais ayant des déficiences visuelles. Alexandre Bellemare a 28 ans et est non-voyant de naissance. Il a commencé à apprendre à se servir d'un ordinateur à peu près au moment que le braille, soit vers l'âge de 6 ans. Pour son travail, il passe l'essentiel de ses journées sur Internet. Malgré tout, il éprouve des difficultés importantes à effectuer diverses transactions sur le site web de son institution financière depuis que ce dernier a été refondu. Celui-ci raconte « C'est une catastrophe, ça m'a pris 30 minutes pour payer une facture et je suis habitué. Pour d'autres, ça peut prendre la journée. Je songe sérieusement à changer d'institution financière. » Les personnes aveugles se déplacent généralement sur leur bureau d'ordinateur et dans les pages web avec les flèches de leur clavier, jamais avec une souris. Un lecteur d'écran lit à voix haute ce qui est affiché à l'endroit où se trouve le curseur. Le texte peut aussi surgir simultanément sur un afficheur braille que l'utilisateur parcourt avec ses doigts. Plusieurs obstacles peuvent empêcher les personnes avec des déficiences visuelles d'accéder facilement au contenu du web. Il y a par exemple les menus déroulants qui ne déroulent pas, les photos sans description vocale, les petits tests visuels servant à confirmer que l'utilisateur n'est pas un robot et les liens que le lecteur d'écran n'est pas capable de reconnaître. Parfois, du son se déclenche automatiquement et empêche l'utilisateur d'entendre la description vocale. Dans le cas de l'institution financière de M. Bellemare, il y a notamment des liens cliqués qui ne sont pas indiqués comme tels et des pop-up importants qui ne sont pas signalés. Lors de la visite de métro chez lui, M. Bellemare a aussi eu de la difficulté à naviguer sur un grand site de nouvelles. Les programmeurs peuvent pourtant augmenter la qualité de leur site en respectant certaines normes d'accessibilité. Les organismes publics provinciaux sont d'ailleurs tenus de respecter les standards SGQRI 00801 depuis 2012. Ces critères qui visent à prendre en compte les utilisateurs avec des limitations visuelles, complètes ou partielles, concernent principalement la façon dont le contenu est structuré. Il s'agit par exemple de préciser le texte à prononcer à la place d'une image ou de coder la hiérarchie des titres dans la page afin que l'utilisateur non-voyant puisse déterminer l'importance de ce qui est lu. Lorsqu'on conçoit un site web, il faut se mettre dans la peau d'une personne avec des limitations fonctionnelles, estime Vincent François, consultant en accessibilité du web. Mais ce n'est pas encore pris au sérieux dans l'ensemble du monde du web, ni par le gouvernement, ni par l'industrie. Monsieur François n'a pas vraiment noté d'amélioration du degré d'accessibilité des sites web dans les dernières années. Selon lui, l'adoption de standards n'est pas suffisante. Il faudrait imposer des obligations légales d'accessibilité aux entrepreneurs privés, donner des formations à grande échelle au gouvernement et faire de la sensibilisation. En Ontario, par exemple, les entreprises et organismes de 50 employés ou plus doivent se soumettre à des règles d'accessibilité des contenus web. Monsieur François rajoute, l'accès aux sites web reste un problème pour beaucoup de personnes avec des limitations visuelles et seuls les débrouillards s'en sortent. C'est un texte de Roxane Léouzon et Naël Chiab pour le journal Métro d'aujourd'hui. Trouver un commerce ou un restaurant accessible relève parfois du parcours du combattant pour les personnes à mobilité réduite. À Toronto, la situation est toutefois en train de changer grâce à une nouvelle application mobile qui permet d'identifier les lieux accessibles en quelques clics. L'anxiété et la frustration de ne pas avoir accès à certains commerces ont poussé Mayanne Ziv, une photographe professionnelle qui souffre de dystrophie musculaire, à créer l'application pour téléphone intelligent Access Now. Son application permet de géolocaliser les établissements accessibles grâce à une carte interactive qui identifie les endroits faciles d'accès en vert et ceux qui ne le sont pas en rouge. La base de données est alimentée par les utilisateurs qui commentent leur expérience en décrivant par exemple la largeur de la porte d'un commerce, la hauteur de la marche à l'entrée ou encore les dimensions des toilettes. Pour Mayanne Ziv, il est important que ce soit des personnes à mobilité réduite qui contribuent à enrichir la base de données. Elle dit « Quand on appelle dans un restaurant pour savoir s'il est accessible, les employés répondent souvent par l'affirmative. En arrivant sur les lieux, on a souvent de mauvaises surprises. » Elle explique qu'il faut parfois rebrousser chemin parce que la marche à l'entrée est trop haute, parce que l'espace de circulation à l'intérieur est restreint ou encore parce que la toilette est au sous-sol. C'est difficile de juger lorsqu'on ne se déplace pas en fauteuil roulant, dit-elle. Pour l'ancien lieutenant-gouverneur de l'Ontario, David Hunley, qui se déplace en fauteuil roulant, cette application est synonyme de liberté. Il mentionne « C'est extrêmement frustrant de ne pas savoir à l'avance si un endroit est accessible. Savoir où l'on peut aller, c'est en quelque sorte être libre. C'est étonnant qu'un tel outil n'ait pas été créé plus tôt. Il espère que l'initiative incitera les commerces qui ont de mauvaises critiques à leur égard d'améliorer leur aménagement. » Il dit « J'espère que les commerçants verront dans cette application une façon d'attirer plus de clients. Les personnes qui ont un problème de mobilité représentent environ 16% de la population. » Il ajoute qu'installer une petite rampe d'accès ne coûte parfois qu'une quelques dizaines de dollars et que c'est un investissement qui rapportera à coup sûr, à son avis. Depuis la création de l'application en août, plus de 1500 établissements de Toronto ont été recensés. Mayanne Ziv ne compte pas s'arrêter là. Elle souhaite que l'application serve à partager de l'information partout dans le monde. Son vœu semble se réaliser. Des lieux en Afrique du Sud, en Israël, aux États-Unis, en Australie ou encore en Espagne sont maintenant identifiés sur l'application. C'est un texte de Stéphane Blais pour Radio-Canada. Sylvia Pinel, ministre du Logement en France, a annoncé la publication d'un décret et d'un arrêté qui simplifient les règles d'accessibilité applicables aux bâtiments d'habitation collectifs et aux maisons individuelles lors de leur construction. Ces nouvelles normes concernent également les bâtiments existants faisant l'objet de travaux de modification. Elles visent à une meilleure prise en compte de l'ensemble des handicaps. En juin 2014, Sylvia Pinel avait annoncé une série de mesures de simplification pour la construction de bâtiments, et ce, afin de relancer un secteur en crise et faire face à la pénurie de logements. L'accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite avait été évoquée pour adopter les normes en fonction des besoins et de l'usage donné aux habitats, aussi bien dans la construction neuve que dans le bâti existant. Le décret relatif à l'accessibilité aux logements neufs des personnes en situation de handicap vient renforcer les mesures annoncées l'an dernier et accélère leur mise en place. Le décret donne une certaine liberté d'action aux maîtres d'œuvre qui pourront maintenant proposer des solutions innovantes, des alternatives à celles prescrites par la réglementation dès lors qu'elles répondent à l'objectif d'accessibilité et de sécurité. Et en terminant au sport, des milliers de jeunes hockeyeurs font escale à Ottawa le temps de la Coupe de la capitale Bell, l'un des plus grands tournois de hockey mineur au monde. Plus de 250 équipes de partout en Amérique du Nord et même de la Finlande participent à ce tournoi de hockey. La plupart des 4500 joueurs sont des enfants âgés de 9 à 12 ans. Toutefois, il y a une nouveauté cette année, un volet de hockey adapté pour les joueurs avec une déficience intellectuelle. 9 clubs participent à ce volet. Pour les joueurs, la victoire et la défaite ne sont que secondaires. De leur côté, les parents ont de la difficulté à contenir leur fierté, comme c'est le cas pour la mère d'un jeune handicapé, Carole Lamontagne. Elle témoigne « Mon fils a toujours voulu jouer au vrai hockey, alors c'est un rêve qui devient réalité ». Les compétitions traditionnelles, quant à elles, se déroulent sur 5 jours. Au fil des années, outre les hockeyeurs canadiens et québécois, des participants provenaient entre autres de l'Autriche, de l'Allemagne, de la Finlande, de la Chine et du Japon. Ces compétitions devraient également faire le bonheur des commerces et des entreprises aux alentours. C'est un texte des journalistes Kim Vallière et Judy Trin pour Radio-Canada. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que tous les textes et les liens menant vers les articles se trouvent sur le site de vusetvoix.com. Merci beaucoup d'avoir été là et à demain.